Vous écoutez RTL.
8h47. Et vous recevez ce matin Anne Thomas Posado.
Oui, vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université de Paris 8. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Venezuela. Où se tient ce dimanche des élections constituantes cruciales après des mois de manifestations. On va revenir un peu sur la genèse de cette crise. Ça va faire 4 mois que ça dure. Pourquoi est-ce que tout cela a éclaté ?
Ça a éclaté au moment où le tribunal suprême de justice, qui est plutôt acquis au président Nicolas Maduro, a promulgué un décret qui destituerait l'Assemblée nationale et qui romprait l'immunité parlementaire de l'Assemblée nationale, qui est plutôt acquise, aux deux tiers acquise à l'opposition. Ces décrets ont mis le feu aux poudres et ont suscité des manifestations parfois violentes de l'opposition. Et depuis 4 mois, on est dans une escalade des deux côtés, avec une dérive autoritaire assez prononcée du gouvernement et des velléités insurrectionnelles réelles de l'opposition qui s'alimentent mutuellement. Depuis 4 mois, on en est aujourd'hui à plus d'une centaine de morts.
Je crois que c'est 113 morts, hein, le dernier bilan, c'est vrai que c'est considérable.
Tout à fait.
Et des manifestations très très violentes. Est-ce que pour vous, on approche, ces élections-là, ça peut être perçu comme une forme de prise de pouvoir ou de peut-on aller jusqu'à dire de putsch ou pas ?
Ça l'est en partie, puisque cette assemblée constituante, elle a un mode de scrutin qui est extrêmement contesté. On a les deux tiers qui vont être élus de manière assez classique au suffrage universel, mais avec une très forte surreprésentation des zones rurales qui sont très favorables au gouvernement, et un autre tiers qui est fait sur des secteurs, c'est-à-dire les travailleurs, les employeurs, les retraités, les étudiants, mais guidé par les groupes qui sont favorables au gouvernement. C'est un mode de scrutin qui est très contesté parce qu'il permettrait au gouvernement d'avoir une majorité dans cette assemblée constituante tout en étant minoritaire dans l'opinion. C'est la raison pour laquelle l'opposition ne participe pas globalement à cette assemblée constituante, et en ça, l'assemblée constituante peut difficilement être une solution à cette crise qui, politique qui met le feu au pays depuis 4 mois.
Oui, parce que ça peut paraître étonnant qu'on manifeste contre des élections. Généralement, on manifeste pour en avoir des élections. Mais là, elles sont organisées d'une telle façon que ça ne plaît qu'au pouvoir en place, c'est ça ?
Tout à fait, elles sont organisées par le pouvoir en place, pour le pouvoir en place et pour se maintenir au gouvernement. L'opposition revendique des élections générales, ce qui n'est pas constitutionnel non plus en tant que tel. Mais on a aussi, du côté du gouvernement, une volonté de reporter toutes les élections qu'il n'est pas sûr de remporter. On a eu un report des élections régionales qui devaient se tenir en décembre dernier et qui sont reportées au décembre prochain, des élections syndicales qui ne sont pas tenues dans l'entreprise pétrolière, dans l'entreprise sidérurgique, pour pas voir la victoire d'opposants. On a une possibilité d'un référendum révocatoire du président de la République qui aurait pu se tenir depuis plusieurs mois, mais qui a été bloqué par l'instance électorale qui est favorable au gouvernement. Donc on a un gouvernement qui essaye de refuser le fait qu'il est minoritaire dans l'opinion, et donc du coup qui refuse un mode de scrutin qui lui serait équitable et qui verrait sans doute sa défaite.
Et ces manifestations là qui se répètent depuis 4 mois, on l'a dit, qui ont fait déjà 113 morts. Est-ce que du coup on peut parler d'une guerre civile presque de basse intensité ? Il y a des milices extrêmement violentes qui poursuivent les manifestants dans la rue. D'ailleurs, manifester est devenu interdit. Il y a des étudiants qui sont jugés par des tribunaux militaires. On est proche de la dictature ?
La dictature, je ne pense pas que ce soit encore le cas. On a un pouvoir qui est toujours un pouvoir civil, élu par des élections qui étaient à l'époque transparentes. Par contre, on a une dérive autoritaire qui est nette. Ce report d'élections, vous le disiez, des jeunes manifestants qui sont jugés par des tribunaux militaires. Manifester est encore possible dans certaines zones. Le gouvernement délimite. Les zones les plus proches des lieux de pouvoir sont empêchées de toute manifestation. Les 113 morts, il faut relativiser parce que les sources de violence sont relativement diverses dans ces 113 morts.
D'accord.
On a des personnes qui essayent de récupérer des richesses dans des centres commerciaux, illégalement, mais qui se retrouvent électrocutés, donc ne sont pas victimes d'une répression particulière. Mmh. On a des policiers qui sont victimes donc de cocktails Molotov ou quoi, ou d'autres engins pour donner la mort, donc de manifestants. On a des personnes qui subissent des accidents de circulation dans le cadre des barricades que mettent les opposants. On a aussi des manifestants qui tombent sous les balles des forces de l'ordre.
Oui, il y a aussi quand même des
balles.
Donc,
bien sûr, tout à fait. Mais je précise juste que les sources de la violence sont diverses. Il y a aussi des personnes qui tombent par balles, effectivement, de la répression de l'État qui est réelle. Et on a effectivement ce phénomène qui est particulièrement dangereux de violence politique qui se généralise des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a des collectivos qui sont des bandes armées plutôt favorables au gouvernement qui peuvent empêcher la tenue de manifestations pacifiques parce que ça gêne les intérêts du gouvernement et qui agissent hors tout cadre légal. Et de l'autre côté, on a aussi des guarimberos, donc des bandes armées plutôt favorables à l'opposition, qui favorisent la violence, qui vont mettre le feu à l'enceinte domicile du Chavez, qui vont s'en prendre à des militants parce qu'ils sont soupçonnés d'être favorables au gouvernement. Donc on a une violence politique qui devient généralisée et où la guerre civile, elle n'est pas encore le cas. On est à une centaine de morts pour l'instant. Oui. Mais c'est un risque dans les mois et les semaines à venir si la tension ne retombe pas.
Parce que qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Comment on peut sortir de cette tension extrême? On ne voit pas très bien dans quel sens ça peut aller.
Pour l'instant, l'escalade continue. Hein. Pour l'instant, la solution serait soit qu'un des deux camps renonce, c'est-à-dire que soit l'opposition renonce à faire des manifestations et laisse le gouvernement mener sa politique, soit que le gouvernement démissionne et laisse l'opposition faire ses élections générales et son programme tel qu'elle l'a choisi. Soit pour l'instant on est dans l'escalade parce que du côté du gouvernement c'est les velléités les plus autoritaires qui sont prononcées et du côté de l'opposition les aspects les plus constitutionnalistes qui voulaient attendre les termes électoraux pour avoir la fin du mandat Nicolas Maduro de termes constitutionnels et avoir de nouvelles élections présidentielles mais légales sont complètement marginalisés par ce scénario politique extrêmement tendu.
Et c'est une crise politique, on peut peut-être le préciser, qui s'appuie sur une crise économique profonde aussi.
Tout à fait, c'est pour ça qu'il y a c'est une des raisons principales de cette crise économique, c'est-à-dire qu'on a des pénuries des aliments de première nécessité, de médicaments qui sont extrêmement profonds et qui nourrissent un mécontentement extrêmement profond dans la population.
Parce qu'avant, le pétrole permettait de financer un peu tout ça, de distribuer des aliments presque subventionnés, des médicaments. Tout ça, ça s'est arrêté d'un coup.
Pas d'un seul coup, mais ça a eu en particulier au moment de la chute des cours du pétrole. On a un pays qui a les premières réserves de pétrole mondiales et qui du coup est extrêmement dépendant à la rente pétrolière. Plus de 95% des exportations que fait le Venezuela vient de ce pétrole. Donc à partir du moment où en 2014 on a une chute des cours du pétrole, le pays se retrouve dans une situation très compliquée. Compliqué pour cette raison, donc qui est une raison un peu externe à ce que peut mener la politique du gouvernement, mais aussi pour des raisons plus spécifiques, plus nationales, où on a une monnaie qui a vu sa valeur perdre. Mmh. On a eu un contrôle d'échange qui a été mis en place il y a une quinzaine d'années et qui a été détourné par des grandes entreprises, avec la complicité des autres instances gouvernementales, et ça a été un manque à gagner pour l'État de plusieurs centaines de milliards de dollars. On se retrouve dans une situation où aujourd'hui on a une différence entre le taux officiel et le taux officieux qui est de 1 à plus de 400.
D'accord.
C'est extrêmement difficile de se procurer des produits, c'est extrêmement difficile d'importer dans un pays qui dépend de la rente pétrolière et donc a une agriculture qui est extrêmement faible.
Oui.
Avec un pays qui a une agriculture extrêmement faible pour alimenter les dizaines de millions de Vénézuéliens, il y a une difficulté d'importation, donc il y a une difficulté d'importation avec une monnaie qui est extrêmement faible et on a du mal donc à trouver des produits extrêmement basiques pour se nourrir, se soigner au Venezuela à l'heure actuelle. Ce qui produit ce mécontentement et ce qui fait que des gens qui ne sont pas forcément favorables à l'opposition vont manifester, pas parce qu'ils ont confiance dans la coalition d'opposition, mais parce que juste, ils ont un mécontentement profond du gouvernement de Nicolas Maduro.
Merci beaucoup Thomas Posado d'avoir été avec nous ce matin sur RTL pour nous expliquer ce qui se passe au Venezuela. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à l'université de Paris 8.